dit-il ensuite au verset 20, « Tu ne réfléchis donc pas, imbécile. » Ça, c'est moi qui le rajoute, j'ai eu l'impression qu'il me disait ça, ce texte. « Veux-tu avoir la preuve que la foi sans les actes ne sert à rien ?» Et là, il prend l'exemple d'Abraham. Abraham, qui était, vous vous rappelez, à deux doigts de sacrifier son fils. Alors, ça n'avance pas. Alors, on le dit à la légère, c'est cette flèche-là. D'accord. Voilà. Donc, je disais à Abraham, qui était à deux doigts de sacrifier son fils, on le dit un peu à la légère, mais il était à deux doigts de tuer son enfant, hein, très clairement. Abraham, notre ancêtre, n'a-t-il pas été déclaré juste à cause de ses actes lorsqu'il a offert son fils Isaac sur l'autel? Tu le vois, sa foi et ses actes agissaient ensemble. Et grâce à ses actes, sa foi a atteint son plein épanouissement. Ainsi s'accomplit ce que l'Écriture déclare à son sujet. Abraham eut confiance en Dieu, et Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste et l'a appelé son ami. Vous le voyez donc, on est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes, et pas uniquement à cause de sa foi. La fin du verset 26, « Comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte. » Jacques prend ici le même exemple que l'apôtre Paul, celui d'Abraham. Quand Paul voit dans ce texte une justification par la foi seule, Dieu, en portant sa foi à son crédit, l'a déclaré juste. Jacques lui commente ce même passage en affirmant avec le verset suivant, « Vous le voyez donc, on est déclaré juste devant Dieu à cause de ses actes. » Je crois que l'un n'oppose pas l'autre. Bien au contraire, la parole de Dieu étant infaillible, ne pouvant se contredire, nous pouvons affirmer que l'un va avec l'autre. En fait, Jacques, dans sa lettre, il fait que réaffirmer l'enseignement même de Jésus. Jésus proclamait la nécessité de la nouvelle naissance. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. » Tout en ordonnant d'agir selon la loi et bien même au-delà, je vous le dis, si vous n'obéissez pas à la loi, mieux que les spécialistes, vous n'entrerez pas dans le royaume. Quel est l'objectif de cet enseignement? Quel est le but de ce paradoxe apparent seulement? Je crois que l'objectif est double. Premièrement, il dénonce celui ou celle qui se contente de confesser une foi d'appartenance apparente, d'appartenance à une famille sympathique, la chrétienté, comme on appartiendrait à un club de foot, un club de jazz ou autre. Deuxièmement, l'enseignement de Jacques dénonce l'orgueil, je crois, de celui ou de celle qui voudrait prétendre accéder au Père uniquement par ses œuvres, par le moyen de son choix, c'est-à-dire sans la foi. En effet, si tu n'as pas pris position personnellement en confessant à Christ ton incapacité à lui accéder par ton ouvrage, ta volonté, qu'il soit simplement le maître de ta vie, prends garde. Quoi que tu fasses, quel que soit cet ouvrage, tu es semblable à un voleur qui cherche à bénéficier d'un héritage qui n'est pas à toi. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Seule la foi sauve, et bien évidemment, mais seuls tes actes confessent ta foi. Et je crois que c'est le message de Jacques dans ce passage. Je voudrais reposer la question. Où en es-tu? Où sont les œuvres de ta foi? Il y a 2 ans, à Tin Ranch, on a commencé on a refait notre parcours de corde, on a commencé l'aménagement des tipis, beaucoup l'ont vu. On a fait le mini-golf et pour tout ça, on a abattu une très grande quantité d'arbres. Et en réorganisant comme ça le champ visuel du centre, en abattant tel ou tel arbre, en fonction des besoins, je me suis retrouvé face à un problème, un vrai dilemme personnel. Il y avait un magnifique petit chêne de 4-5 mètres qui se trouvait en plein milieu du parcours de corde. Mais quand je vous dis en plein milieu, c'est voilà, sur le tracé de ma corde. Cet arbre, il était beau. J'ai commencé par vouloir l'intégrer dans mon parcours. La solution n'était pas satisfaisante, alors je me suis dit, je vais le contourner. Je vais faire même deux contournements, comme ça chacun des jeunes pourront choisir passer à gauche, passer à droite. Les semaines ont passé, mais ça ne faisait pas. Cet arbre, malgré sa beauté, n'était pas à sa place. Et après avoir longtemps attendu, j'ai cherché des solutions efficaces, j'ai dû me résoudre à l'abattre. Et je me revois encore comme ça, en le regardant pour le tronçonner, en lui dire « Je suis désolé, t'es super beau, quoi. Mais t'es pas à ta place, quoi. » Et l'origine de ce message vient de cette histoire. Parce que en vivant ça, j'ai pensé au fait de « Mais Sylvain, quoi, est-ce que t'es à ta place, toi ?» Et j'espère que t'es capable de poser cette question pour toi-même ce matin. Suis-je à ma place? Suis-je dans mon rôle à l'église, avec mes amis, dans mon travail? En tant que croyant, nous devons nous poser cette question. Où est ma place dans ce monde? J'ai la foi, je crois en Jésus, il est mon maître, très bien. Mais où est-ce que je place mes priorités, mes loisirs, mes ambitions? Et pour le croyant comme pour le non-croyant, je crois que ne pas répondre à cette question peut être en même temps une source de manque. Nul ne peut être comblé dans son tréfonds s'il ne sait à quoi il est destiné. Mais combien plus encore s'il manque l'objectif ou s'oppose à cette destinée. Alors, je ne parle pas là d'une destinée de cinéma, j'espère que vous l'avez compris. Je parle tout simplement du plan de Dieu pour nos vies, du plan de Dieu pour ma vie personnelle. Il en est du royaume des cieux comme d'un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi paraître la mauvaise herbe. Les serviteurs du propriétaire de ce champ vinrent lui demander « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Alors les serviteurs demandèrent « Veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe? Que nous l'abattions comme l'arbre de Sylvain ?» Pardon, je personnalise. « Non, répondit le maître, car en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher le blé en même temps. Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en bottes pour la brûler. Ensuite, vous couperez le blé et vous le rentrez dans mon grenier. » Cette parabole, je crois qu'elle révèle pourquoi les bons et les mauvais bénéficient encore ici-bas des bontés de l'Éternel. Mais je crois qu'elle est aussi un appel pour toi à faire un choix ce matin. Pour toi qui es dans le club de l'Église et qui n'a pas encore réellement pris parti. Je crois qu'elle est aussi une mise en garde. Le tri sera fait, comme dans mon histoire de chêne, mais non sur des critères humains que sont la beauté, la performance ou autres, mais sur les critères de Dieu. Alors tu peux te dire, je l'ai dit tout à l'heure, tu peux te dire chrétien, j'ai confessé Christ, je suis tranquille, j'ai répondu à l'appel de Dieu. Eh bien non, je crois qu'en tant que chrétien, en tant que croyant, Dieu t'attend ailleurs que dans ton petit confort. Parce que je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Même en tant que Français moyen, qui peine à payer son crédit à la fin du mois de voiture ou d'appartement. Nous restons des privilégiés face à la misère qui se trouve au bout de la rue, en bas de notre immeuble ou au bout du lotissement. Je crois que l'on ne peut pas se dire chrétien sans prendre part au fardeau de l'Église. Et je parle là, bien sûr, de l'Église universelle réelle. Parce qu'après ta mort, il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage. Il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens. Il remit à l'un 5 lingots, à un autre 2 et à un troisième 1 seul, en tenant compte des capacités personnelles de chacun, puis il s'en alla. Celui qui avait reçu les 5 lingots se mit sans tarder à les faire fructifier, de sorte qu'il en gagna 5 autres. Celui qui en avait reçu 2 fit de même et en gagna 2 autres. Quant à celui qui en avait reçu qu'un, il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre des comptes de leur gérance. Celui qui avait reçu les 5 lingots se présenta apportant les 5 lingots supplémentaires qu'il avait gagnés. « Maître, dit-il, tu m'avais remis 5 lingots, j'en ai gagné 5 autres, les voici. »« Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus grande. Viens partager la joie de ton maître. » Celui qui avait reçu les 2 lingots se présenta aussi et dit, « Maître, tu m'avais remis 2 lingots. J'en ai gagné 2 autres, les voici. » « Très bien, lui dit son maître, tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance. » Je me suis perdu. « Tu t'es montré fidèle en peu de choses, c'est pourquoi je t'en confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. » Enfin, celui qui avait reçu 1 lingot vint à son tour et dit, « Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu récoltes où tu n'as pas répandu de semences. Alors j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre. Voilà, prends ce qui t'appartient. » Mais son maître lui répondit, « Vaut rien, feignant. Tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé et que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences. Eh bien, tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers, et à mon retour, j'aurais récupéré le capital et les intérêts. » Je le lis paisiblement, mais j'imagine que ça n'était pas le ton employé. Oui, c'est vrai, être un bon chrétien, un témoin de Christ dans son attitude, fait partie du package. Avoir une bonne moralité, refuser de fêter Halloween et en être fier, payer la TVA au plombier qui a réparé la fuite d'eau, prier avant chaque repas ou avant le coucher des enfants. Vivre en bon chrétien, en ayant une foi que l'on peut qualifier de visible pour ses voisins, pour ses amis, est une bonne chose. Néanmoins, je pense que se limiter à ça, ou plutôt se contenter de cela, équivaut à enfouir son talent dans la terre. La fin du passage n'est pas tendre. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui en a 10, et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres. Je ne rentrerai pas dans la polémique ou dans le débat d'une perte ou non de salut. Je crois évident que la suite de Matthieu 13, vous le lirez chez vous, vous le relirez, ne font qu'affirmer qu'il n'existe que 2 catégories de personnes. Ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Peut-être as-tu adhéré à un clan, à un club, on l'a vu tout à l'heure, ou bien même à des valeurs que tu trouves très bien dans l'Église. Mais si tu ne portes pas de fruits, c'est peut-être plus grave que tu ne le penses. En fait, mon histoire de chaîne, les paraboles de Jésus, expliquent quoi ? Elles expliquent que tu as beau être le plus beau, la plus belle, le plus performant au travail, la plus pieuse à l'Église, si tu n'es pas à ta place, à quoi sers-tu ? Et je crois que tout le monde a quelque chose de spécial. Certains sont les plus beaux, comme mon chêne, d'autres les plus forts, certains sont les plus malins, les plus patients, d'autres sont vifs, méticuleux, ou plus vertueux, certains sont très serviables, empathiques, Certains savent créer tout un tas de choses, je pense aux ingénieurs ou aux ingénieux. D'autres ont une belle voix, peuvent chanter de façon remarquable, savent maîtriser leurs mains pour un instrument ou pour des travaux. C'est mon cas, malheureusement, c'est fatigant. En tout cas, chacun de nous, je crois, peut être admiré à travers ce que Dieu lui a donné. La question c'est, ce talent que j'ai, je l'utilise à mon profit ou à celui du Père? La parabole des talents nous dit que celui qui met à profit la capacité que Dieu lui a donnée pour lui-même est un serviteur inutile. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots de la Bible. On a tous quelque chose de beau en nous. Mais attention, si on n'est pas à sa place, on ne sert à rien. Et tu t'es déjà probablement posé cette question. À quoi je sers? C'est même une phrase que les jeunes se balancent comme ça. Nous, à Tinranch, on le voit tout le temps, mais toi, tu sers à rien. Mais au fond, la réalité, ça n'est pas drôle comme question. Le monde nous pousse à chercher une utilité dans les choses visibles et nous aveugle souvent quant à la réelle direction vers laquelle devrait se porter. En réalité, je crois que c'est assez simple. Dieu attend simplement que tu reconnaisses l'origine de ce qui te rend beau, de ce qui te rend belle, c'est-à-dire lui-même. En effet, si ces qualités sont en vous et y foisonnent, elles ne vous laissent pas sans activité ni sans fruits. L'engagement n'est pas une question de temps libre, de RTT ou de nombre de semaines de congés. Je crois que c'est une prise de position, un choix, une volonté. Nous savons, le royaume de Dieu est comme un banquet où nous sommes invités et certains refusent l'invitation à ce salut. Mais ayons également conscience que l'engagement, le service dans l'Église ou ailleurs, est également une invitation que l'on ne peut refuser. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable. C'est pas le bon. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. L'appel au service est pour tous. Malheureusement, on a trop souvent des églises on-off ou à deux vitesses. On y trouve d'un côté ceux qui s'épuisent et de l'autre ceux qui s'économisent. Et ces deux situations, elles sont tellement opposées que ça peut créer que des tensions, des incompréhensions entre les individus. Pour vivre une assemblée apaisée, harmonieuse, efficace dans son témoignage, l'Église a besoin d'équilibre, tout simplement. C'est souvent le cas avec Dieu. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, et précieuse devant Dieu. Vous-même, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, c'est-à-dire l'Église, un saint sacerdoce, afin, c'est-à-dire dans le but, d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. L'Église n'est rien d'autre qu'un peuple d'adorateurs qui rend témoignage de l'amour de Dieu, afin que d'autres parviennent à l'acceptation de cet amour divin, et non afin que certains parviennent à l'épuisement humain. Équilibrer les engagements. Ceux qui font trop, je crois, doivent apprendre à laisser faire. Mais pour cela, il faut que les autres pierres vivantes prennent leur part à l'ouvrage. Il est possible de rester sourd à l'appel de Dieu dans le service. Je crois que le don de soi n'existe pas. Ce n'est pas un don que l'on reçoit, c'est un acte que l'on décide. Trois références, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Aussi, nous qui travaillons ensemble à cette tâche, nous vous invitons à ne pas laisser sans effet la grâce que vous avez reçue de Dieu. En effet, Dieu déclare dans l'Écriture au moment favorable, « J'ai répondu à ton appel et au jour du salut, je suis venu à ton secours. » Or, c'est maintenant le moment tout à fait favorable, et c'est aujourd'hui le jour du salut. Car c'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Vous n'y êtes pour rien, c'est un don de Dieu. Cela ne vient pas des œuvres, afin que personne n'en tire orgueil. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que tu t'y engages. Au cours de ta vie, il y aura au moins 3 appels divins clairs, c'est ce que j'ai vécu en tout cas personnellement. Je pense qu'il y aura d'autres appels. Le premier, c'est l'appel à l'acceptation du message de la croix, c'est-à-dire à la conversion. Si tu n'es pas passé par cette étape-là, c'est maintenant le moment favorable de Corinthiens 6. Le deuxième appel, c'est une fois converti. Nous sommes appelés à devenir de vrais adorateurs, c'est-à-dire des adorateurs dont l'adoration ne dépend pas de nos circonstances. Le troisième appel, c'est l'appel à l'engagement dans les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous nous y engagions. J'aimerais revenir sur une petite phrase du premier texte. Grâce à ses actes, sa foi a atteint, en parlant d'Abraham, sa foi a atteint son plein épanouissement. Ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça, mais ça fait partie des ce que j'appelle des paradoxes bibliques. Nos actions, nos actes, nos engagements contribuent à l'édification de notre foi. C'est un cercle vertueux, en fait. Plus ma foi est grande, et plus je la mets en action. Plus je la mets en action, et plus ma foi grandit. Je crois, frères et sœurs, qu'il est primordial d'être sérieux avec l'Écriture. Elle est la parole de Dieu. Recherchez une posture d'adulte dans la foi. Une posture d'homme et de femme disponible, qui aspire à exercer les œuvres que Dieu lui a préparées, que Dieu lui a confiées. Peut-être que ce matin, tu es dans l'interrogation. Tu te dis disponible. Mais tu ne sais pas où Dieu t'attend. Peut-être certains d'entre vous pensent n'avoir aucune compétence pour le service, ne pas en être digne même. Mais je crois que c'est comme pour la vie séculière, pour le travail. Tu es allé à l'école, tu t'es formé, tu as pris le temps de te former, tu as copié des modèles, tu as consacré ton énergie à la réussite de tes affaires, de ta famille, de ton réseau. Je crois qu'une foi agissante fait de même. Bien évidemment, on n'est pas tous appelés à partir en Afrique, à l'autre bout du monde ou autre, ou à risquer sa vie au quotidien. Mais je crois que chacun de nous a une place dans le corps de Christ. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps ». Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il l'a voulu, lui. Si tout était un seul membre, où serait le corps ? L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Les invisibles nécessaires. Les invisibles. Le cœur de l'homme ne se voit pas. Les intestins ne se voient pas. Il y en a même un gros et un petit. Les poumons fonctionnent à deux, mais ne se voient pas. Les globules rouges et blancs se comptent par milliers, mais ne se voient pas. Plusieurs millions d'organes ou de cellules composent le corps, et la grande majorité ne se voit pas. Bien sûr, vous l'avez compris, le corps de Christ est tout aussi varié. Il y a l'église locale et toutes les tâches qui incombent à la gestion d'une assoce. Et puis il y a l'église au sens large, c'est-à-dire les œuvres ou associations axées sur l'évangélisation, sur le soutien aux plus faibles, sur la reconstruction de personnes brisées. Voilà, on pourrait citer un nombre innombrable de travail différents. différent. Je crois que chacun de nous peut trouver sa place dans le corps de Christ. Et si tu ne sais pas où te tourner, confie cela à Dieu, bien sûr. Prie et agis. C'est-à-dire, commence par faire connaître ta disponibilité. Va voir les personnes en charge de l'église, de ton église, ou des associations que tu as à cœur. Mais ne dis pas « je vais faire telle ou telle chose ». Je crois qu'il faut se rendre réellement disponible. C'est-à-dire de dire simplement « je suis dispo, de quoi avez-vous besoin ?» Et ne t'inquiète pas, les tâches sont tellement variées qu'il y aura forcément quelque chose pour toi. Chacun a sa place dans le corps de Christ. J'ai glissé l'idée de se former tout à l'heure et j'ai partagé le fait d'être sérieux avec l'Écriture. Si Dieu te met un service à cœur, réalise-le avec la même énergie, le même sérieux que n'importe quel autre travail où tu aurais à rendre des comptes. N'aie pas honte. J'ai écrit même littéralement en Colin, prends plaisir. Prends conscience que tu bosses pour le royaume. Une église est saine et équilibrée quand chacun des membres qui la compose prend sa part à l'ouvrage. Je terminerai avec un dernier verset. Tous les jours, ils persévéraient d'un commun accord dans le temple et rompant le pain dans leur maison, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Louant Dieu en ayant la faveur de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'assemblée ceux qui devaient être sauvés. Ils persévéraient ensemble, et Dieu ajoutait.